Peut-être que si l'article de Rolling Stone était sorti plus tôt, présageant les problèmes à venir, j'aurais décidé de ne pas me présenter. Difficile à dire. Ce que je sais, en revanche, ironie du sort ou intervention de la Providence, c'est que c'est un autre pasteur, par ailleurs ami du révérend Wright, le docteur Otis Moss Jr., qui m'a aidé à surmonter mes doutes. Otis Moss était un vétéran du mouvement des droits civiques, un proche et un associé de Martin Luther King, le pasteur d'une des plus grandes églises de Cleveland dans l'Ohio, et un ancien conseiller du président Jimmy Carter. Je ne le connaissais pas très bien, mais après la publication de l'article, il m'a appelé un soir pour m'offrir son soutien. Il avait eu vent des difficultés posées par Jeremiah, m'a-t-il dit, et entendu ces voix au sein de la communauté noire qui affirmaient que je n'étais pas prêt, ou que j'étais trop radical, ou trop lisse, ou pas assez noir. Il pensait que le chemin à venir serait plus dur encore, mais m'enjoignait de ne pas me décourager. « Chaque génération est limitée par ce qu'elle sait », a continué Moss. « Ceux d'entre nous qui ont participé au mouvement, les géants comme Martin, les lieutenants et les fantassins comme moi, nous sommes la génération Moïse. Nous avons lutté en marchant, en faisant des sit-ins, nous sommes allés en prison, quitte à défier nos aînés parfois. Mais en réalité, nous ne faisions que bâtir sur les fondations qu'ils avaient posées. Nous sommes sortis d'Égypte, pour ainsi dire, mais nous n'avons pas pu poursuivre notre voyage au-delà. » Vous, Barack, vous faites partie de la génération Josué. Vous et vos semblables êtes responsables de la prochaine étape. Les gens comme moi peuvent vous offrir la sagesse de leur expérience. Peut-être saurez-vous tirer des leçons de nos erreurs. Mais au bout du compte, c'est à vous, avec l'aide de Dieu, que revient la tâche de bâtir à votre tour sur nos propres fondations et de mener notre peuple et ce pays hors du désert. Je ne saurais dire à quel point ces paroles, prononcées presque un an avant notre victoire dans l'Iowa, m'ont redonné la force d'avancer. Ce que cela signifiait pour moi, d'entendre un homme si intimement lié à la source de mes toutes premières inspirations, me dire que ce que j'avais entrepris en valait la peine, que ce n'était pas une simple expression de la vanité ou de l'ambition, mais plutôt un nouveau maillon de la longue chaîne du progrès. Et d'un point de vue plus concret, c'est parce que le docteur Moss, ainsi que d'autres anciens collègues de Martin Luther King, comme le révérend C.T. Vivian d'Atlanta, et le révérend Joseph Lowery de la Conférence du leadership chrétien du Sud, ont bien voulu me donner la proverbiale imposition des mains et ainsi se porter garant de ma capacité à poursuivre le travail historique qu'ils avaient entamé, que les leaders de la communauté noire n'ont pas rejoint en plus grand nombre le camp de Hillary au début de la course. Jamais cela ne s'est vérifié de manière aussi flagrante qu'en mars 2007, quand j'ai participé à la traversée commémorative du pont Edmund Pettus à Selma, en Alabama, organisé chaque année par le député de la Chambre des représentants, John Lewis. Je voulais depuis longtemps me rendre en pèlerinage sur le site du Dimanche sanglant, qui, en 1965, était devenu le cœur du combat pour les droits civiques, quand les Américains avaient enfin pris la pleine mesure de ce qui était en jeu. Mais ma visite s'annonçait compliquée. Les Clinton seraient là, m'avait-on dit, et avant que les participants à la cérémonie se rassemblent pour traverser le pont, Hillary et moi étions censés prendre la parole au même moment dans deux églises différentes, nous livrant un duel par office religieux interposé. Pour ne rien arranger, notre hôte, John Lewis, avait indiqué qu'il était enclin à soutenir Hillary. John était devenu un bon ami. Il avait tiré une grande fierté de mon élection au Sénat, qu'il interprétait à juste titre comme une contribution à son propre héritage. Et je savais qu'il était tourmenté par cette décision. Nous nous étions parlé au téléphone, et en l'écoutant m'expliquer son raisonnement, il connaissait depuis longtemps les Clinton, l'administration de Bill avait soutenu bon nombre de ses initiatives législatives, j'avais décidé de ne pas insister. J'imaginais la pression que devait sentir peser sur ses épaules cet homme doux et affable, et j'étais conscient par ailleurs que, alors même que j'étais en train de demander aux électeurs blancs de me juger sur mes seuls mérites, invoquer sans scrupule la solidarité raciale aurait été quelque peu hypocrite. La commémoration des marches de Selma aurait pu virer au spectacle politique le plus embarrassant. Mais quand je suis arrivé, je me suis tout de suite senti à l'aise. Peut-être était-ce le fait de me retrouver dans un endroit qui avait joué un rôle considérable dans mon imagination et infléchi la trajectoire de mon existence. Peut-être était-ce dû à l'attitude des gens qui étaient venus célébrer cette occasion, tous ces gens ordinaires qui me serraient la main ou me prenaient dans leurs bras, certains arborant des badges à la gloire de Hillary, tout en me disant qu'ils étaient heureux de me voir ici. Mais c'était surtout dû à la présence d'un petit groupe de doyens respectés de la communauté noire qui me soutenait. Quand j'ai pénétré dans l'enceinte historique de l'église épiscopale méthodiste africaine Brown de Selma, j'ai appris que le révérend Lowery avait demandé à dire quelques mots avant que je prenne la parole. À plus de 80 ans, il n'avait rien perdu de son esprit ni de son charisme. « Je vais vous dire, » a-t-il commencé, « il se passe de drôles de choses ici. J'en entends qui prétendent qu'il ne se passe rien, mais qui sait? Qui peut le dire ?»« Allez-y, révérend, prêchez !» a crié quelqu'un dans la salle. « Vous savez, je suis allé chez le médecin l'autre jour, et il m'a dit que mon taux de cholestérol était un peu élevé. Mais ensuite, il m'a expliqué qu'il y avait deux types de cholestérol. Il y a le mauvais cholestérol, et puis il y a le bon cholestérol. » Avoir du bon cholestérol, ça, pas de problème. Et ça m'a fait songer que c'était pareil pour beaucoup de choses. Par exemple, quand on a lancé le mouvement, il y avait un tas de gens qui pensaient que nous étions complètement dingues. Pas vrai, City ? Le révérend Lowery a adressé un signe de la tête en direction du révérend Viviane, assis sur scène. Tenez, en voilà un autre de noir frappadingue. Et il pourra vous le dire, tout le monde dans le mouvement était un peu frappadingue. La foule a éclaté de rire. « Mais c'est comme le cholestérol, » a continué le révérend Lowery. « Il y a être dingue dans le bon sens du terme et être dingue dans le mauvais sens du terme, vous voyez ?»« Harriet Tubman, avec son chemin de fer clandestin, elle était dingue comme pas permis. »« Et Paul, quand il a prêché devant Agrippa, Agrippa lui a dit « Paul, t'es complètement dingue !» Et c'est vrai, il était dingue, mais dans le bon sens du terme. » La foule s'est mise à applaudir et à acclamer le révérend Lowery qui en venait au fait. Et je vous le dis aujourd'hui, nous avons besoin de plus de dingues comme ça dans ce pays. Personne ne sait ce qui peut se passer quand ces dingues-là vont glisser un bulletin dans l'urne. Tout le monde dans l'église s'est alors dressé d'un bond. Les pasteurs assis à côté de moi sur scène se tordaient de rire et me donnaient des tapes dans le dos. Et le temps que je me lève à mon tour pour m'adresser à l'assemblée, reprenant les mots que le docteur Moss m'avait offerts comme point de départ, à propos de l'héritage de la génération Moïse, qui avait rendu possible mon existence, et à propos de la responsabilité qui incombait désormais à la génération Josué, du pas qu'elle devait franchir à son tour pour instaurer la justice dans cette nation et partout dans le monde, et pas seulement pour la population noire, mais pour tous ceux qui avaient été dépossédés, toute l'Église avait basculé dans une joyeuse frénésie de chants, de cris et de prières. Dehors, après la messe, j'ai vu un autre ancien compagnon de route de Martin Luther King, le révérend Fred Shuttlesworth, un légendaire et intrépide défenseur des libertés qui avait survécu à quantité d'agressions. Le Ku Klux Klan avait incendié sa maison et un groupe de blancs l'avait tabassé à l'aide de matraques et de coups de poing américains et avait poignardé sa femme parce qu'ils avaient essayé d'inscrire leurs deux filles dans une école jusqu'alors réservée exclusivement aux blancs. Ayant été récemment traité pour une tumeur au cerveau, il était très affaibli, assis dans un fauteuil roulant, mais il m'a fait signe d'approcher et tandis que les marcheurs se rassemblaient, je lui ai proposé mon aide pour traverser le pont. « Ça me plairait bien, » a dit le révérend Shuttlesworth. Et nous nous sommes avancés sur le pont au-dessus des eaux brunes du fleuve, sous un ciel matinal d'un bleu radieux, au son des prières et des chansons qui montaient çà et là de la foule. À chaque pas, je tentais d'imaginer ce que ces hommes et ces femmes à présent âgés avaient dû ressentir à ce même endroit, 40 ans plus tôt, leur jeune cœur battant furieusement dans leur poitrine, devant une phalange d'hommes armés montés à cheval. Et j'ai songé combien mes propres fardeaux étaient légers en comparaison. Le fait qu'ils n'aient jamais cessé de lutter, ni jamais sombré dans l'amertume, malgré les revers et les chagrins, me faisait percevoir que je n'avais pas le droit de céder à la fatigue. Je me sentais renaître à mes convictions. Je me trouvais là où j'étais censé me trouver. Je faisais ce qui devait être fait. Et le révérend Lowery n'avait peut-être pas tort quand il disait qu'il était en train de se passer quelque chose de dingue. Dans le bon sens du terme. 10 mois plus tard, alors que nous nous attaquions à la Caroline du Sud pendant les deuxième et troisième semaines de janvier, je savais que notre foi allait de nouveau être mise à l'épreuve. Il fallait absolument que nous remportions cet état. Sur le papier, les choses se présentaient plutôt bien pour nous. Les électeurs de la primaire démocrate étaient constitués en grande partie d'Afro-Américains et nous avions dans notre camp un formidable mélange de personnalités politiques aguerries et de jeunes militants, noirs comme blancs. Mais les sondages semblaient indiquer que notre cote dans l'électorat blanc ne décollait pas, et nous ne savions pas si les électeurs afro-américains allaient se déplacer en nombre suffisant le jour du scrutin. Notre espoir était de pouvoir aborder le Super Tuesday avec une victoire en poche qui allait au-delà du seul clivage racial. Mais si notre prouesse dans l'Iowa avait démontré toutes les possibilités d'un nouveau genre de pratique politique plus idéaliste, la campagne en Caroline du Sud s'est révélée on ne peut plus différente. La compétition a tourné à l'empoignade, à une confrontation politique à l'ancienne, dans un décor sur lequel pesait lourdement la mémoire d'une histoire raciale douloureuse et sanglante. Si la campagne a pris cette tournure, c'est en partie parce que la course était serrée, que la tension montait dans les deux camps, et parce que l'équipe Clinton semblait s'être aperçue qu'une campagne négative leur réussissait. Leurs attaques, à la télé et par porte-parole interposée, étaient devenues plus incisives. À un moment où les électeurs dans tout le pays commençaient à regarder de plus près ce qui se passait, nous étions tous conscients des enjeux. Notre unique débat cette semaine-là a pris les allures d'un véritable pugilat entre Hillary et moi. Et John Edwards, dont la campagne était à bout de souffle et qui n'allait pas tarder à jeter l'éponge, en était réduit à tenir la chandelle tandis que nous nous sautions à la gorge comme des gladiateurs dans l'arène. Puis, Hillary est partie faire campagne ailleurs. Mais la fièvre n'est pas retombée pour autant, car quelqu'un d'autre était resté en Caroline du Sud pour défendre sa cause, plus fougueux, énergique et omniprésent que jamais. Un certain William Jefferson Clinton. Je comprenais la situation dans laquelle se trouvait Bill. Non seulement sa femme se faisait scruter sous toutes les coutures et attaquer en permanence, mais ma promesse de changer Washington et de transcender le système des partis devait lui apparaître comme une remise en cause de son propre héritage politique. Et sans doute n'avais-je fait qu'ajouter de l'huile sur le feu quand, au cours d'une interview dans le Nevada, j'avais déclaré que, si j'avais de l'admiration pour Bill Clinton, je ne pensais pas qu'il avait transformé la politique comme l'avait fait Ronald Reagan dans les années 1980, en parvenant à infléchir d'une manière inédite la relation du peuple américain à l'État sur la base des principes conservateurs. Compte tenu de l'obstructionnisme et de l'hostilité inouïe auquel Bill Clinton avait dû faire face au cours de sa présidence, je ne pouvais guère lui reprocher d'avoir envie de rabattre son caquet à un jeune néophyte présomptueux. Clinton était manifestement ravi d'être de retour sur le ring. Il parcourait la Caroline du Sud de long en large avec sa truculence habituelle, multipliant les remarques astucieuses et exsudant un charme sans manière, proche des gens. Il ne me portait jamais de coups en dessous de la ceinture, et j'aurais soulevé les mêmes critiques que lui si j'avais été à sa place. Mon manque d'expérience, par exemple, et le fait que si jamais je parvenais à être élu président, je me ferais dévorer tout cru par les républicains au Congrès. Au-delà de ces questions, cependant, se posait celle des relations entre groupes ethniques, sujet politique sur lequel Clinton s'en était sorti avec beaucoup d'habileté par le passé, mais qui se révélait bien plus épineux face à un candidat noir crédible. Quand il avait affirmé, à la veille de la primaire du New Hampshire, que plusieurs de mes positions sur la guerre en Irak relevaient du conte de fées, certains au sein de la communauté noire avaient interprété cette remarque de manière plus large, pensant que Clinton avait voulu laisser entendre que ma candidature elle-même était une chimère. Ce qui avait conduit le whip de la majorité à la Chambre des représentants, Jim Clyburn, l'élu noir le plus influent de la Caroline du Sud qui s'en était jusqu'alors tenu à une prudente neutralité, à le désapprouver publiquement. Quand Clinton disait aux électeurs blancs que Hillary les comprenait, comme ses adversaires étaient incapables de les comprendre, Gibbs, lui-même enfant du Sud, entendait dans cette phrase des échos du stratège républicain Lee Atwater et de la politique dite des messages subliminaux. Et il n'avait aucun scrupule à la dénoncer comme telle par la voix de nos partisans. Rétrospectivement, je ne suis pas certain que ce reproche ait été fondé. En tout cas, ce n'était pas le raisonnement de Bill Clinton. Mais il était compliqué en Caroline du Sud de faire la distinction entre la vérité et ce que les gens ressentaient. Partout dans cet état, j'étais accueilli avec chaleur et hospitalité par les blancs comme par les noirs. Dans certaines villes comme Charleston, j'ai pu voir à quoi ressemblait ce « nouveau Sud » dont on parlait tant. Cosmopolite, bigarré et fourmillant d'activités commerciales. Du reste, moi qui avais installé mes pénates à Chicago, je n'avais pas vraiment besoin qu'on me rappelle que le Sud n'avait pas le monopole des divisions raciales. Au fil de mes déplacements de campagne en Caroline du Sud, cependant, il m'arrivait d'observer des comportements moins polissés, plus directs, parfois empreints d'une franche brutalité. Comment interpréter l'attitude de cette femme blanche très chic qui avait refusé de me serrer la main dans un restaurant en me jetant un regard sombre? Comment comprendre les motivations de ces gens qui venaient en marge de nos meetings brandir des pancartes arborant le drapeau sudiste et des mots d'ordre de la NRA, le puissant lobby des armes, qui braillaient des slogans antifédéralistes et me disaient de rentrer chez moi? Ces cris et les statues des héros de l'armée des confédérés n'étaient d'ailleurs pas les seuls signes évoquant l'héritage de l'esclavage et de la ségrégation. Sur la suggestion de Jim Clyburn, je me suis rendu au J.V. Martin Junior High School, un collège public fréquenté en très grande majorité par des élèves noirs de la petite ville rurale de Dillon, dans le nord-est de la Caroline du Sud. Certaines parties du bâtiment avaient été construites en 1896, 30 ans à peine après la fin de la guerre de sécession, et si des rénovations avaient été faites depuis, rien ne le laissait deviner. Murs à moitié effondrés, plomberie hors d'usage, fenêtres fissurées, couloirs humides, sans éclairage. Le bâtiment était encore chauffé par un poêle à charbon au sous-sol. En quittant les lieux, je me sentais en proie à un abattement mêlé d'un regain de motivation. Quel message avait-on transmis aux générations entières de jeunes filles et de jeunes garçons qui avaient franchi chaque matin les grilles de cet établissement, sinon la certitude qu'aux yeux de ceux qui détenaient le pouvoir, il n'avait aucune importance, que le rêve américain, quoi que recouvre cette notion, n'était pas pour eux. De telles expériences m'aidaient à prendre la mesure de la lassitude que devaient éprouver bon nombre de citoyens noirs de la Caroline du Sud, confrontés depuis si longtemps à pareille déchéance, du regard désabusé avec lequel ils observaient notre campagne. Je commençais à comprendre qui était réellement mon adversaire. Ce n'était pas contre Hillary Clinton ou contre John Edwards que je me battais, ni même contre les Républicains. Je me battais contre le poids implacable du passé, contre l'inertie, le fatalisme et la peur qu'il engendrait. Les pasteurs et les personnalités influentes de la communauté noire, habituées à mobiliser eux-mêmes les électeurs contre rétribution, se plaignaient de notre insistance à recruter plutôt des bénévoles directement sur le terrain. Pour eux, la politique n'était pas tant une affaire de principe qu'un simple business, et ici, c'était comme ça depuis toujours. Au cours de la campagne, Michel, dont l'arrière-arrière-grand-père était né en esclavage dans une plantation de riz de la Caroline du Sud, entendrait certaines femmes lui expliquer qu'il valait mieux perdre une élection que perdre un mari. Sous-entendu, si jamais j'étais élu président, j'étais certain de finir assassiné. L'espoir et le changement étaient un luxe, semblaient nous dire les gens, des produits d'importation exotiques qui ne tarderaient pas à s'abîmer sous l'effet de la chaleur. Le 25 janvier, veille du scrutin, un sondage de la chaîne NBC indiquait que les intentions de vote en ma faveur chez les électeurs blancs de la Caroline du Sud étaient descendues sous la barre maigrichonne des 10%. La presse nationale en a aussitôt fait des gorges chaudes. C'était prévisible, psalmodiaient les experts. Même une participation massive de l'électorat afro-américain ne pourrait rien face à l'hostilité profondément ancrée dans l'esprit des électeurs blancs à l'égard d'un candidat noir, quel qu'il soit, et à plus forte raison, à l'égard d'un candidat répondant au nom de Barack Hussein Obama. Axelrod, en mode fin du monde comme d'habitude, est venu me rapporter ses informations tout en faisant défiler frénétiquement l'écran de son BlackBerry. Puis il a ajouté, ce qui n'aidait pas beaucoup, qu'une défaite en Caroline du Sud sonnerait probablement le glas de notre campagne. Et, ce qui aidait encore moins, que même si nous parvenions à arracher la victoire, la presse et les Clinton prendraient prétexte de notre faible score dans l'électorat blanc pour la minorer et, à bon droit, remettre en question la viabilité de ma candidature à l'élection générale. Tout le monde était sur des charbons ardents le jour de la primaire, conscient de ce qui était en train de se jouer. Or, le soir venu, quand les premiers résultats sont tombés, nous nous sommes aperçus qu'ils étaient bien meilleurs que ce que nous avions escompté, même dans nos projections les plus optimistes. Nous avons battu Hillary avec une marge de 2 voix contre 1, obtenant près de 80% des voix dans l'électorat noir, avec un taux de participation très élevé, et 24% des suffrages dans l'électorat blanc. Nous distancions même notre adversaire de 10 points chez les blancs de moins de 40 ans. Compte tenu de la gageure de notre entreprise et des coups que nous avions pris depuis l'Iowa, nous étions au comble de la jubilation. Quand je suis monté sur la scène d'un auditorium de Columbia pour prononcer notre discours de victoire, j'ai senti vibrer tout autour de moi la foule qui tapait des pieds et applaudissait à tout rompre. La salle était bondée. Plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées, même si, sous la lumière aveuglante des projecteurs des chaînes télé, je ne distinguais que les 2 ou 3 premiers rangs, surtout des étudiants, noirs et blancs à égale mesure, certains bras dessus, bras dessous, d'autres se tenant par les épaules, le visage étincelant de joie et de détermination. « La race n'a pas d'importance !» scandait la foule. « La race n'a pas d'importance ! La race n'a pas d'importance !» J'ai repéré certains de nos jeunes organisateurs et bénévoles. Une fois de plus, ils avaient réussi, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure. Ils méritaient bien un petit tour de stade, me suis-je dit, un moment de pure exaltation. C'est pourquoi, après avoir demandé au public de faire silence et entamer mon discours, je n'ai pas eu le cœur de m'inscrire en faux contre ce slogan entonné par tous ces gens animés de louables intentions. Je n'ai pas eu le cœur de leur rappeler qu'en cette année 2008, alors que le drapeau sudiste avec tout ce qu'il symbolisait flottait encore au fronton du Capitole de la Caroline du Sud, à quelques mètres à peine de l'endroit où nous nous trouvions, eh bien si, la question raciale avait encore une importance cruciale. aussi fort que fut leur désir de croire le contraire.